Andrew Murray. Il faillit arrêter un véritable réveil. Par David Smither. Peu après ma conversion à Christ, on me donnait deux brochures écrites par Andrew Murray, La vie de prière, The Prayer Life, S'attendre à Dieu, Waiting on God. À chaque nouveau chapitre, il me semblait vivre une fraîche révélation pénétrante et de nouvelles expériences dans la prière. Pour le jeune croyant que j'étais, ces écrits m'aidèrent grandement à déterminer et établir ma vie de prière personnelle. Les principes contenus dans ces livres, aux pages écornées, continuent toujours d'exercer une influence significative sur ma vie de prière et mon ministère. Presque 20 ans après, je commence seulement maintenant à sentir que je comprends véritablement la profondeur des écrits d'Andrew Murray. La plupart des ouvrages sur la prière vous mènent dans un processus de prière, mais les écrits d'Andrew Murray vous conduisent à la personne de prière Jésus-Christ. Naissance et environnement familial. Andrew Murray naquit le 9 mai 1828 dans un presbytère réformé hollandais à Graaf-Reinet, en Afrique du Sud. Ce fut là-bas que son père, le révérend Andrew Murray, senior, exerçait un ministère en faveur des colons hollandais. La maison des Murray était un endroit vibrant et actif, rempli des bruits animés de joie, de prière et d'adoration. Chaque vendredi soir, le père d'Andrew Murray réunissait sa famille et lui lisait des récits émouvants des réveils passés. Il se consacrait alors à son étude et déversait son cœur en prière en vue d'obtenir un réveil en Afrique du Sud. Il procédait ainsi toutes les semaines, selon son habitude depuis 1822. Le jeune Murray fut au bénéfice de plusieurs autres exemples merveilleux de zèle et de dévotion chrétien. Des hommes comme David Livingstone et Robert Moffa séjournaient souvent à la maison quand ils se rendaient sur la côte. William C. Burr. En 1838, à l'âge de 10 ans, Andrew quitta sa maison avec son frère John pour faire des études en Écosse. Ils demeurèrent chez leur oncle, le pasteur John Murray. Durant le printemps 1840, l'oncle présenta les garçons au ministère de réveil William C. Burr. Ce revivaliste renommé laissa une impression profonde et durable dans le cœur du jeune Andrew Murray. Le jeune garçon de 13 ans fut ému lorsque M. Burr l'invita à prendre sa Bible et son manteau pour se rendre ensemble aux réunions de réveil à Aberdeen. Des années plus tard, Murray pouvait encore se rappeler la puissance de l'influence divine de Burr sur sa vie. Sa sincérité, sa prière fervente, sa prédication pénétrante, tout cela contribua à définir le ministère personnel et l'appel d'Andrew Murray. Souvent, l'influence d'un ministère rempli de l'esprit appartenant à une génération donnée arrose les semences de la moisson d'une autre génération. Le pasteur Blumhardt. Après avoir obtenu leur diplôme au collège Marischal en 1844, les deux frères se rendirent à Utrecht, en Hollande, en vue d'approfondir leurs études en théologie et en hollandais. À cette époque, la vie religieuse aux Pays-Bas était en déclin et le rationalisme avait miné beaucoup de pupitres et d'instituts de théologie. Un peu comme les frères Wesley avec le Club Saint-Olic Club à Oxford, John et Andrew se joignirent à un groupe zélé de l'université, nommé « Ces Cordabar, souvenez-vous de la parole ». Là, ils trouvèrent des frères qui avaient les mêmes dispositions, une communion chaleureuse et un vrai zèle missionnaire. Lors d'une période de congé scolaire, les deux frères visitèrent l'Allemagne où ils eurent l'occasion de rencontrer le pasteur Blumhardt. Cet homme remarquable avait été utilisé pour amener le réveil dans la région du Rhin en Allemagne. Le réveil avait été marqué par d'extraordinaires manifestations de délivrance et de guérison des malades par la prière. Andrew vit de ses propres yeux et dans sa propre époque la progression de l'œuvre de la puissance de Dieu. Le garçon prédicateur. Les deux frères furent ordonnés à La Haye au 20e anniversaire d'Andrew et ils quittèrent peu après le pays pour commencer leur travail en Afrique du Sud. Andrew paraissait à peine plus âgé qu'un enfant quand il retournait la première fois en Afrique. À l'âge de 20 ans, il avait l'air beaucoup plus jeune que son âge. Une fois, il fut rapporté qu'un vieux fermier hollandais avait dit « Pourquoi nous ont-ils prêté une fille pour nous faire des prêches ?» Cependant, en dépit de l'apparence de fragilité chez Murray, son endurance et son zèle n'avaient pas de fin. Souvent, il partait à cheval pendant des semaines entières pour tenir des réunions avec les bons fermiers sud-africains parlant hollandais. Ces fermiers spirituellement affamés venaient de centaines de kilomètres à la ronde, littéralement, pour écouter ce garçon prédicateur. Une église temporaire faite de roseaux étaient érigés et alors assiégés par des centaines de gros wagons transportant des fermiers hollandais. Ce fut lors de telles aventures dans le ministère que le jeune Murray commença à exprimer le feu et la ferveur si souvent associée à ses écrits classiques sur la prière et la vie intérieure. Préparation au réveil. En 1860, Andrew Murray accepta un appel à prendre la charge de pasteur dans une église de Worcester. Son engagement dans l'église coïncida avec un réveil et une conférence missionnaire rassemblant jusqu'à 374 ministères sud-africains. La conférence avait été organisée dans l'objectif spécifique d'encourager un réveil spirituel et de recruter de nouveaux ouvriers et missionnaires pour les églises réformées hollandaises d'Afrique du Sud. Au début de la conférence, un prospectus fut remis aux participants qui retraçait les nouvelles du récent réveil en Amérique et en Grande-Bretagne. Les ministères présents furent fortement encouragés à s'étendre à une action similaire de Dieu en Afrique du Sud et à prier pour cela. Un certain docteur Robertson parla de leur grand besoin d'avoir un réveil, suivi par le docteur Adamson qui donna alors un compte-rendu détaillé du récent réveil survenu en Amérique. Andrew Murray Senior tenta de s'adresser aux gens rassemblés, mais en fut incapable, vaincu par le brisement et les larmes. Dans l'ensemble, la conférence fut un grand succès, elle stimula une nouvelle espérance et la prière parmi les ministères participants. Peu de temps après, deux jeunes gens se réunirent à l'église un dimanche soir. Ce fut lors de cette rencontre que l'esprit du réveil éclata d'une façon inattendue. La réunion se poursuivait normalement suivant le programme, lorsqu'une modeste fille noire de 15 ans se leva pour prier. L'associé de M. Murray, J. Sedevry, surveillait la réunion de prière et nous donne ci après un témoignage oculaire de ces événements extraordinaires. Un certain dimanche soir, ils s'étaient rassemblés dans une petite salle, quelques 60 jeunes gens. J'étais le responsable de la réunion, qui commença avec un hymne et un enseignement tiré de la parole de Dieu, à la suite de quoi je priais. Trois ou quatre autres annoncèrent une strophe d'un hymne et prière, comme d'habitude. C'est alors qu'une fille de couleur d'à peu près 15 ans, au service d'un fermier habitant à proximité, se leva au fond de la salle pour demander si elle aussi pouvait proposer un hymne. Au début j'hésitais, ne sachant pas ce que les gens penseraient, mais de meilleures pensées prirent le dessus, et je répondis « oui ». Elle annonça son hymne et pria sur un ton émouvant. Alors qu'elle priait, nous entendîmes, pour ainsi dire, un bruit éloigné qui se rapprocha de plus en plus jusqu'à ce que la salle sembla être ébranlée. À l'exception d'une ou deux personnes, toute l'assemblée commença à prier, la plupart à voix audible, mais certains en murmure. Cependant, le bruit que fit le rassemblement devint un bruit assourdissant. Une sensation que je ne peux pas décrire prit possession de moi. Offensé par le réveil, pendant que se poursuivait la réunion, Andrew Murray prêchait dans une autre partie de l'église. Il n'était pas présent au début de ces événements. À la fin de la réunion conduite par Andrew Murray, un ancien franchit la porte de la salle où se tenait la réunion de prière, entendit le bruit, y jeta un coup d'œil et retourna chercher en courant M. Murray. J.C. Devry retraça avec éclat la réaction de surprise de M. Murray vis-à-vis des jeunes gens réunis. M. Murray s'avançait vers la table, près de laquelle je m'étais agenouillé pour prier, me toucha et me fit comprendre qu'il voulait que je me lève. Il me demanda alors ce qui s'était passé. Je lui racontai tout. C'est alors qu'il s'éloigna d'une petite distance vers le fond de la salle et s'écria aussi fort qu'il le put, « Peuple, silence !» Mais les prières continuaient. Au même moment, je m'agenouillais de nouveau. Il m'apparut que si le Seigneur venait nous bénir, il n'était pas convenable que je me tienne debout mais que je devais être à genoux. « Monsieur !» Murray s'écria alors une nouvelle fois d'une voix forte. « Peuple, je suis votre ministère, envoyé de Dieu. » Silence. Mais il n'y avait aucun moyen d'arrêter le bruit. Personne ne l'entendit, mais tous continuèrent à prier et à supplier Dieu d'avoir miséricorde et de pardonner. Monsieur, Murray retourna ainsi vers moi et me dit de commencer l'hymne, qui commençait par la strophe, « Viens en aide à la main puissante qui pleure ». Je le fis. Mais les émotions ne se calmèrent point et la réunion continua de rechef dans la prière. Monsieur, Murray se prépara alors à sortir, en disant « Dieu est un Dieu d'ordre, et ici c'est la confusion totale ». Sur ce, il quitta la salle. La prière et la puissance du réveil. Les réunions de prière s'organisèrent spontanément chaque soir après cela. L'ordre de ces réunions était habituellement identique chaque fois, bien que personne ne le fixât. Au début, il y avait généralement un grand silence, aucun effort n'était fait pour provoquer les émotions, mais après la deuxième ou troisième prière, l'assemblée commençait soudainement à crier de concert dans la prière. Ce n'était pas le moins du monde l'habitude des églises réformées hollandaises à cette époque, et personne ne leur avait jamais enseigné à procéder ainsi. Quelquefois, la réunion continuait jusqu'à 3 heures du matin, et même arrivé à 7 heures, certains désiraient rester plus longtemps. Les gens retournaient chez eux au milieu de la nuit, en chantant joyeusement dans les rues. La réunion de prière prit de l'ampleur rapidement et dut être transférée dans un bâtiment scolaire situé dans les environs. Ce bâtiment finit par s'avérer également trop petit pour contenir toute la foule de chercheurs affamés de Dieu. Dans des endroits où les gens ne savaient pas ce que c'était que les réunions de prière juste un an plus tôt, ils se plaignaient maintenant de ce que les réunions finissaient une heure en avance. Non seulement des réunions de prière hebdomadaires, mais également des réunions de prière journalières étaient réclamées par les gens, même au rythme de 3 fois par jour, et même parmi les enfants. Le réveil ébranla toute la campagne. Jeunes et vieux, riches et pauvres, noirs et blancs, tous furent affectés de la même façon par le réveil. C'était très étonnant de voir que le réveil n'était pas confiné aux villes et villages, mais qu'il était tombé dans des endroits totalement isolés sans contact avec l'extérieur, jusque dans des fermes éloignées, là même où hommes et femmes furent saisis par des émotions qui leur avaient été totalement étrangères quelques semaines voire quelques jours plus tôt. Les gens furent fréquemment empoignés par une intense conviction. Des hommes forts crièrent d'angoisse tandis que d'autres tombèrent à terre inconscients et durent être transportés hors des réunions. Tirer enseignement du réveil. J.C. Devry nous expose plus en détail la difficulté que M. Murray a accepté ces manifestations comme venant de Dieu. J.C. Devry écrit le premier samedi soir, dans la maison où était aménagée une plus grande salle, M. Murray conduisait la réunion. Il lut un passage de l'écriture, fit quelques remarques à son sujet, ouvrit le moment de prière et donna ensuite l'opportunité à d'autres de prier. Pendant la prière qui suivit la sienne, nous entendîmes de nouveau le même bruit venant de loin. Il s'approchait de plus en plus quand, soudainement, toute l'assemblée fut en prière. Ce soir-là, un étranger s'était tenu debout à la porte du début jusqu'à la fin de la réunion, observant son déroulement. Monsieur Murray descendit de la plateforme et de nouveau alla d'une personne à une autre dans l'assemblée, tentant de les calmer. L'étranger s'avança alors sur la pointe des pieds depuis la porte, toucha M. Murray doucement et dit en anglais « Je crois que vous êtes le ministre de cette assemblée. Faites attention à ce que vous faites, car c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre ici. J'arrive tout juste d'Amérique et c'est exactement ce dont j'ai été témoin là-bas. » Andrew Murray avait été offensé par l'explosion intense de prières émotionnelles et cherché sans succès à contrôler et calmer les réunions. Toutefois, après cet incident, il arrêta apparemment d'essayer de malmener le Saint-Esprit. Il apprit à accepter ces soudaines explosions de prières et ses fortes émotions comme une œuvre de Dieu. Son père, Andrew Murray Sr., confirma aussi que ses accès d'émotion étaient véritables et déclara « Je bénis Dieu d'être en vie pour pouvoir voir de mes propres yeux un tel travail de l'Esprit. » La forte réaction de M. Murray semble provenir du fait que ces manifestations de réveil particulières dépassaient sa propre expérience personnelle et sa compréhension de la bienséance. Bien qu'il ait prié avec ferveur pour un réveil, étudié des comptes rendus de réveil et même observé de ses propres yeux une certaine mesure de réveil, il ne réussit pas à anticiper sa propre réaction à la nature surnaturelle d'un réveil dans sa propre église. Réveil à tente brisée. Les conceptions de M. Murray sur le bon ordre dans l'Église et celles du Saint-Esprit étaient de toute évidence très différentes. Les attentes brisées, si elles restent non réprimées, peuvent conduire à la confusion, la frustration et même à la critique sévère. Quand la foule à Jérusalem s'est précipitée pour observer le miracle de la Pentecôte, acte 2, s'y note que beaucoup parmi les spectateurs étaient « confus ». Ces sentiments de confusion offusquèrent de toute évidence beaucoup, ce qui les emmena plus tard à ridiculiser ouvertement l'œuvre du Saint-Esprit acte 2, 6-13. Les nouvelles expériences de réveil de Monsieur Morel lui enseignèrent en définitive à ne pas juger tout ce qui peut s'apparenter à une situation de confusion en l'attribuant à un manque de bienséance. Il arrive souvent que nous expérimentions de forts sentiments de confusion ou même de frustration quand nous sommes soudainement placés dans un contexte inattendu ou qui ne nous est pas habituel. Chacun de nous a certainement eu l'occasion de lutter contre ces sentiments de confusion ou d'anxiété tout en essayant de trouver ses repères dans une ville ou un pays inconnu. La source de notre confusion n'était pas un manque de bienséance, mais notre propre manque de familiarité avec les nouveaux environnements et les nouvelles circonstances. Acte 2, 6 ne suggère pas que Dieu est l'auteur du désordre et de la confusion. Au contraire, ce verset sert à nous rappeler que notre sens naturel du protocole et de l'ordre est souvent très différent de l'ordre divin du ciel qui descend sur terre. Quand nous nous trouvons soudainement dans un état de surprise ou de confusion devant des événements peu familiers, nous devons nous garder de les rejeter sans réflexion, simplement parce qu'elles sont nouvelles à notre expérience personnelle. Seul un cœur orgueilleux se précipite pour condamner ce qu'il ne comprend pas. Nous devons examiner attentivement toutes choses, selon les Écritures, plutôt qu'au travers de nos préférences personnelles ou nos traditions. Alors et alors seulement serons-nous capables de retenir ce qui est bon dans les jours qui viennent, 1 Thessaloniciens 5, 21. Le réveil et la convention Swick. Les leçons apprises lors de ce réveil contribuèrent à préparer Andrew Murray à son futur rôle dans l'influent mouvement Swick. Monsieur Murray assista à la convention Swick pour la première fois en 1882. En 1885, on lui demanda d'intervenir comme orateur à la fois à la convention Swick et à la convention de Northfield. Murray fut chaleureusement reçu à ses conférences et fut plus tard chargé de ramener le mouvement Swick en Afrique du Sud. La convention Swick fut elle-même le fruit indirect de cette merveilleuse période de réveil. Le réveil toucha au moins 4 continents, apportant avec lui une foi et une vision renouvelée pour la sainteté personnelle et la vie de l'esprit. Ce fut ce message libérateur qui bientôt allait devenir synonyme du ministère personnel d'Andrew Murray. La naissance de la convention Swick unit le mouvement de sainteté européen émergé, de ce fait, contribua à canaliser le feu et l'énergie de ce qui allait être connu sous le nom du « Troisième Grand Réveil ». Cependant, la convention Swick fit plus qu'unir simplement et préserver le fruit qui restait de ce grand réveil. Avec un clair appel à la sainteté personnelle par la foi en Christ, le mouvement Swick contribua à préparer une nouvelle génération au mouvement suivant de Dieu. Ceux qui assistaient aux conventions étaient toujours encouragés à adopter un mode de vie construit sur la sainteté, l'unité et la prière. À la convention de Swick de 1902, 500 chrétiens s'accordèrent pour former des cercles de prière dans les maisons en vue d'obtenir une effusion mondiale du Saint-Esprit. Le fruit de ces groupes de prière de Swick fut atteint sans aucun doute au travers du réveil au pays de Galles en 1904. R.B. Jones, Jesse Penn Lewis et F. Bémier considérèrent tous que la convention de Swick était une des sources cachées du réveil gallois. Par l'intermédiaire de l'enseignement biblique d'hommes comme Andrew Murray, J. Elder Cumming, Evan Hopkins, F. Bémier et beaucoup d'autres, des milliers d'ouvriers et de missionnaires chrétiens furent remplis de puissance et purifiés pour entrer dans un nouveau millénaire de moisson globale. James Hudson Taylor, A. T. Pearson, Samuel Zumer et beaucoup d'autres pionniers missionnaires considérèrent la convention de Swick comme l'une des meilleures terres de chasse pour les meilleurs recrues missionnaires. Nous retrouvons ici une fois de plus cette vérité qu'une génération de ministères remplis de l'esprit arrose souvent la moisson d'une autre génération. Les derniers jours d'Andrew Murray. Le 18 janvier 1917, Andrew Murray rentra dans la gloire. Il entra dans le ciel de la même façon qu'il vécut sur la terre, dans la prière et recommandant aux autres de prier. Peu d'hommes ont jamais eu autant d'impact sur les âmes pour la cause d'une vie remplie de l'esprit que ne le fut Andrew Murray. Il fut indiscutablement l'auteur le plus prolifique dans l'Église sur le sujet de la prière et de la vie intérieure, ayant publié 240 livres entre 1858 et 1917. Plusieurs de ses livres furent traduits en 15 langues différentes. Peu après que la Société de littérature chinoise eut traduit en chinois, pour la Chine, le livre de M. Murray, « L'Esprit de Christ », on rapporta qu'un réveil éclata dans la Chine intérieure. Aujourd'hui encore, ces écrits continuent de façonner la conception de la prière et de la vie de l'esprit que possède une multitude de chrétiens assoiffés. Tirez leçon de nos pères. Andrew Murray fut incontestablement un homme doté de rares dons et d'une perception spirituelle profonde. Néanmoins, il faillit éteindre un véritable réveil. Il avait grandi dans un foyer où son père avait prié fidèlement pour un réveil pendant 30 ans. Pourtant, pendant un temps, il se posa avec entêtement à la réponse, si longtemps attendue aux prières de son père. Jeune garçon, il avait été enchanté du ministère de réveil de William C. Burr, et en Allemagne, il avait été le témoin de ses propres yeux du ministère miraculeux du pasteur Blumhard. Malgré cela, quand il fut lui-même confronté aux manifestations du réveil dans sa propre église, il s'y opposa. « Je n'écris pas ces choses pour déshonorer la mémoire de l'un de nos pères respectés de la foi, mais plutôt dans le but de poser une question importante et fort à propos aujourd'hui. Si un homme doué comme Andrew Murray a pu se tromper en ne reconnaissant pas l'esprit du réveil alors qu'il était en plein milieu d'une préparation au réveil, combien à plus forte raison sommes-nous capables de reproduire la même erreur ? Cette génération de chrétiens doit être disposée à apprendre des expériences, du discernement et des erreurs de nos pères spirituels si nous voulons nous préparer au prochain mouvement de Dieu. Êtes-vous disposé à apprendre? Source The Watchword,